Ah bon, l'intervenante qui m'a précédé a fait état il y a un instant des réticences de certains États à promouvoir l'éducation aux droits de l'homme. On peut se poser la question pourquoi ? Eh bien c'est simple, c'est parce que l'éducation aux droits de l'homme crée des citoyens et l'absence d'éducation aux droits de l'homme maintient des administrés. La différence entre administré et citoyen, c'est que le citoyen est actif, il participe, il connaît ses droits. L'administré, c'est un mouton dont l'administration, dont les États font ce qu'ils veulent. Et pour mémoire, je n'invente rien, ça remonte à longtemps, ce lien entre l'assujettissement des hommes et l'éducation, il a été relevé il y a très 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 longtemps. Je rappelle juste le préambule de la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Voilà ce que dit ce préambule. « L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. » Je répète, l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Donc déjà, à cette période, sous l'influence d'un grand philosophe, qui était en même temps un mathématicien, qui s'appelait Condorcet, déjà à cette période, on a soulevé le problème, on a soulevé la relation, pardon, entre la citoyenneté et l'éducation. Et donc on comprend que beaucoup d'États soient réticents à promouvoir d'abord l'éducation et ensuite l'éducation aux droits de l'homme. J'en viens maintenant à ma lecture personnelle de cette déclaration. Alors évidemment, c'est une déclaration, c'est un texte qui n'est pas obligatoire. Mais c'est un texte que les États doivent considérer de bonne foi. C'est-à-dire, il contient des recommandations qu'ils sont appelés à mettre en œuvre de bonne foi. Mais pour autant, cette éducation aux droits de l'homme, elle n'est pas nouvelle. Je rappelle qu'elle est présente dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je rappelle qu'elle est présente dans le pacte des droits civils, des droits économiques, sociaux et culturels. Je rappelle qu'elle est présente dans la Convention des droits de l'enfant. Je rappelle qu'elle est présente dans la Convention de l'UNESCO contre la discrimination. Qu'elle est présente également dans la Convention contre la discrimination raciale, dans la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Donc, c'est une déclaration qui ne fait que rappeler des règles qui sont déjà obligatoires. Quand on pense par exemple que la Convention des droits de l'enfant a été ratifiée quasiment par tous les États de la planète, sauf deux, les États-Unis et la Somalie. Et que donc, la déclaration ne fait que rappeler aux États une obligation qui pèse sur eux depuis fort longtemps. Alors, cette déclaration, je lui accorde un certain nombre de, on va dire, de vertus, mais elle a beaucoup de lacunes. Alors, les vertus, premièrement, elle fait de l'éducation aux droits de l'homme un élément central, puisqu'elle dit « L'éducation et la formation aux droits de l'homme sont essentielles à la promotion du respect universel et effectif de l'ensemble des droits de l'homme. » Autre qualité, c'est qu'elle retient une conception de l'éducation aux droits de l'homme qui repose sur le diptyque que j'évoquais hier, c'est-à-dire l'éducation en droits de l'homme, c'est les droits de l'homme par l'éducation, à ce moment-là on va appeler ça enseignement, mais c'est aussi les droits de l'homme dans l'éducation. Et là, même là, il y a une petite lacune, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que une autre organisation internationale a adopté un document analogue. Il s'agit du Conseil de l'Europe, qui a adopté en mai 2010 ce qu'il appelle la charte du Conseil de l'Europe sur l'éducation et à la citoyenneté démocratique et l'éducation aux droits de l'homme. Et donc, ce qui manque, même de ce point de vue-là, ce qui manque dans la déclaration des Nations Unies, c'est ce que la déclaration du Conseil de l'Europe appelle la gouvernance démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que l'éducation aux droits de l'homme ait un caractère central, mais aussi qu'elle soit dans les faits, qu'elle se traduise dans les faits par une participation. Et de ce point de vue-là, la déclaration qui a été adoptée est très largement en retrait par rapport au projet dont parlait Monique à l'instant, qui a été adopté à Marrakech. Donc, premier point, j'avais dit caractère central de l'éducation aux droits de l'homme. Deuxième point, éducation aux droits de l'homme conçue de manière relativement globale. On peut relever toujours à son avantage que l'éducation aux droits de l'homme ne concerne pas que l'éducation formelle, puisqu'elle dit qu'il s'agit d'un processus qui dure toute la vie et concerne les individus de tous âges. Dernier point à son avantage, elle dit que cette éducation doit s'appuyer sur un certain nombre de principes et de textes. Elle cite la Déclaration universelle, l'ensemble des traités relatifs aux droits de l'homme, mais ne fait aucune référence au droit international humanitaire. Et les principes sur lesquels doit être fondée, selon cette déclaration, doit être fondée l'éducation aux droits de l'homme, c'est la dignité de la personne humaine, l'égalité et la non-discrimination. Donc voilà ce que je trouve de positif dans cette déclaration. Passons maintenant au passif. D'abord, elle fait une confusion entre l'éducation aux droits de l'homme et la liberté de l'information. C'est-à-dire, au lieu de dire que l'éducation doit être assurée, l'éducation aux droits de l'homme doit être assurée, elle dit que c'est aux individus d'aller chercher des informations sur l'ensemble des droits de l'homme. Or, si on prend le projet adopté à Marrakech, voilà ce qu'il disait. Le droit à l'éducation et à la formation des droits de l'homme est un droit fondamental, inhérent à la dignité de la personne humaine. Donc, ça c'était l'avant-projet. Par ce glissement, on assimile l'éducation aux droits de l'homme à la liberté de l'information. Et donc, on donne une dimension quasiment individuelle à l'éducation aux droits de l'homme. Deuxième limite, pour ceux qui ont le texte en français, enfin même en anglais, c'est l'article 7, alinéa 3. Alors, 7, alinéa 3, il dit que l'éducation aux droits de l'homme doit être assurée dans la limite des moyens disponibles. C'est-à-dire, il reprend une disposition du pacte des droits économiques, sociaux et culturels qui conditionne ces droits aux moyens disponibles. Et ça, c'est une régression. C'est une régression parce que le pacte des droits économiques, sociaux et culturels, il conditionne le droit à l'éducation aux ressources disponibles. Évidemment, s'il n'y a pas de budget, on ne peut pas créer d'école, c'est certain. Mais l'éducation aux droits de l'homme, est-ce qu'elle dépend de ressources disponibles? Puisque c'est une question de programme et de formation. Et donc, du coup, on fait cette assimilation, c'est-à-dire que l'éducation aux droits de l'homme, il faut avoir les moyens, comme l'éducation. Ce n'est pas vrai. Surtout que l'éducation aux droits de l'homme qui est prévue dans la convention de l'UNESCO sur la discrimination à l'école, ne conditionne pas ça aux ressources disponibles. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de faire dépendre l'éducation aux droits de l'homme des ressources disponibles, c'est une régression par rapport au texte existant. Toujours au passif de cette déclaration. 13.2, article 13, alinéa 2. C'est sur les États. il y est dit qu'ils sont encouragés à inclure, le cas échéant dans les rapports qu'ils soumettent aux mécanismes pertinents des droits de l'homme, des informations sur les mesures qu'ils ont adoptées. Et donc on les encourage. Mais, je suis désolé, c'est déjà une obligation, puisque du fait même d'avoir ratifié un traité, le traité des droits économiques, sociaux et culturels, ou bien la Convention des droits de l'enfant, ils sont obligés dans leur rapport de faire état des mesures qu'ils ont prises en application de ces traités. Et ici, une régression, puisque ce n'est plus une obligation, ils sont encouragés. C'est-à-dire, ils font s'ils veulent, ils font s'ils ne veulent pas. Autre élément au passif de cette déclaration. Il concerne cette fois les différents mécanismes qui existent pour veiller à l'application des textes par les États, c'est-à-dire aussi bien les comités que les juridictions, etc., etc. Et là, la déclaration dit aussi qu'ils doivent prendre en compte l'éducation et la formation aux droits de l'homme dans leurs activités. Là aussi, c'est une régression, puisque ces mécanismes, dans la mesure où ils ont été créés pour veiller à l'application par les États de leurs obligations, respect par les États de leurs obligations, ils sont tenus. On ne les encourage pas uniquement. Ce qui fait que ça va conforter une pratique existante. Si on regarde la manière dont l'éducation aux droits de l'homme est surveillée par le comité des droits économiques, par le comité des droits de l'enfant, ou bien au conseil des droits de l'homme, on s'aperçoit que c'est le parent pauvre. C'est-à-dire, il y est fait très peu référence, aussi bien de la part des États qui font des rapports, que de la part des comités qui sont là pour veiller au respect par les États de leurs obligations. J'ai lu, alors là c'est des milliers de pages là aussi, tout ce qui a été produit devant le comité des droits de l'enfant à propos de l'éducation aux droits de l'homme, c'est absolument scandaleux. Je ne sais pas, j'ai étudié, je crois, une cinquantaine ou une soixantaine d'États. Très peu d'États font état de l'éducation aux droits de l'homme. Et le comité, dans très peu de cas, leur fait des recommandations dans ce domaine. Avec parfois des, si je vous lisais, j'ai toutes mes notes ici, si je vous lisais des rapports qui ont été faits par un certain nombre de pays, c'est tout simplement scandaleux, aussi bien de la part des États que de la part des organes de surveillance. Et quand on pense que le Conseil, quand on rappelle, pardon, que le Conseil des droits de l'homme qui a été créé suite à la Commission a pour mission, dans ses missions, la première de ses missions, c'est l'éducation aux droits de l'homme. Relisez la résolution que vous avez dans votre chemise. Donc voilà ce que j'ai trouvé au passif. Alors maintenant, cette déclaration, c'est pourquoi faire ? Parce que, pourquoi je pose la question ? Parce que tout simplement, dans la pratique des Nations Unies, très souvent, dans un premier temps, on adopte une déclaration qui est suivie 2, 3, parfois même une dizaine d'années après, qui est suivie par un traité qui est obligatoire. Ça a été le cas, par exemple, de la déclaration de 1948, qui a été suivie en 1966 par les deux pactes. Ça a été le cas de la déclaration de 1975 sur la torture, qui a été suivie une dizaine d'années après, en 1984, par la Convention sur la torture. Ça a été le cas des personnes handicapées, qui ont fait l'objet d'une déclaration en 1975 et ultérieurement d'un traité en 2006. Donc, si l'on suit la pratique des Nations Unies, théoriquement, cette déclaration devrait être suivie par un traité. Est-ce qu'il faut le souhaiter ? À mon avis, non. Parce que d'abord, ce traité éventuel ferait double emploi avec beaucoup d'autres traités que j'ai cités tout à l'heure. Et d'une, ça c'est au niveau de la forme. Et parce que aussi, cette déclaration est en régression par rapport aux textes qui l'ont précédé. Et troisièmement aussi, parce que si ce traité devait être adopté, il va encore créer un organisme, un comité éventuellement, qui ferait double ou triple emploi avec les comités existants. Et donc, pour l'éducation aux droits de l'homme, de mon point de vue, il serait souhaitable qu'elle reste une simple déclaration. Voilà, et je vous remercie.
Bien, merci, merci Ramdan pour cet exposé qui vous permet de voir les lacunes, de voir les progrès et de la situation actuelle de l'éducation aux droits de l'homme. Maintenant, on va passer directement aux questions et je donne la parole.